La coordination française pour la décennie a tenu son 8e forum « La non-violence à l'école ». La coordination française pour la décennie est un collectif réunissant 84 associations, 13 coordinations locales et parrainées par plus de 130 personnalités, dont Elisabeth Badinter, Albert Jacquard, Boris Cyrulnik, Hubert Reeves. Ouvert au grand public, ce forum a fait le point sur la décennie qui s'achève. Aujourd'hui, la reconnaissance légale de la non-violence s'impose pour aller plus loin. Avec Christian Renoux, président de la Coordination française pour la décennie, Yvette Bailly, vice-présidente de la Coordination française pour la décennie et membre du mouvement pour une alternative non-violente, et Laurent Haute, philosophe social, formateur-chercheur en école du travail social et président de l'association Intermède Robinson.
Vous êtes venu écouter ce forum.
Je suis venue me former en fait, je suis venue réfléchir. Je trouve qu'on est très démunis en tant que parents d'élèves. Moi je suis maman de 3 filles, une en primaire et 2 en secondaire. Et il me semble qu'il est important, urgent pour les parents de réfléchir à ces questions-là, de se former parce que on n'improvise pas une réflexion sur la non-violence.
Christian Renoux, aujourd'hui se tient le 8e forum de la non-violence à l'école. En quoi cela consiste-t-il au juste ?
C'est un forum organisé par la Coordination française pour la décennie. Le but du forum, c'est de faire partager des expériences et des réflexions de théoriciens sur ce qu'est l'éducation non-violente et l'éducation à la non-violence.
Marie-Jo Graner, vous êtes psychologue.
Oui, en effet, j'ai une formation de psychologue. J'ai surtout travaillé comme conseillère conjugale et familiale. Je me suis formée à l'association Couples et Familles. En tant que conseillère conjugale et familiale, ça faisait partie de nos attributions. Les modules éducation à la vie dans les classes, éducation sexuelle et finalement, ça s'est élargi justement aux problèmes de violence.
Question, comment la non-violence vient-elle aux enfants ? Apparemment, ça s'apprend.
Comment apprendre la non-violence aux enfants ? D'abord en étant non-violent avec eux, parce que ça leur donne un modèle. Recentrer les enfants un peu sur eux-mêmes, bien souvent, ils ont même pas tellement la connaissance de leur vie intérieure. Donc, c'est une difficulté d'empathie quand on ne se connaît pas soi-même à essayer de comprendre l'autre.
Cette année, pour le 8e forum, on a pris le thème de l'éducation à la fois à l'école, en famille et dans le quartier. Faire se confronter ces différentes expériences.
Vous avez élargi l'école, vous l'avez mis dans son contexte.
C'est vrai que la coordination dans ces autres forums travaillait spécialement sur l'école, qui est le cœur de notre travail. Comment introduire dans l'école une formation, une éducation à la paix et à la non-violence. Mais il nous a semblé cette fois-ci aussi intéressant de voir le rapport de l'école avec le quartier et la famille, puisque tout ça se tient. L'école n'est pas un château fort ou une forteresse au milieu du reste.
Laurent Haute, vous, ce sont les ateliers de rue, les ateliers Robinson, ça marche.
Nous pratiquons les ateliers de rue, nous pratiquons la pédagogie sociale, c'est-à-dire la présence dans les espaces publics qui permet et qui invite les enfants comme les habitants à se réapproprier finalement ce qui est leur espace et à y organiser des moments de vie sociale, de vie festive. Et nous aimerions aussi que les institutions qui sont dans les quartiers puissent s'ouvrir davantage sur leurs habitants, sur leurs participants, sur les enfants et les familles et qu'elles puissent devenir aussi des lieux de vie ou redevenir des lieux de vie.
Comment se fait-il qu'il y ait besoin de s'atteler à la question de la non-violence à l'école ?
L'enseignement à la non-violence, c'est pas véritablement pris en compte dans le système éducatif français. Même si au ministère de l'Éducation nationale, on dit mais si, on fait déjà des choses. Nous, il nous semble qu'il n'y a pas véritablement d'éducation à la non-violence organisée. On aimerait que ça apparaisse clairement. Alors en particulier, une éducation à l'estime de soi, une éducation à la gestion des émotions, une éducation au vivre ensemble.
Quel est le mécanisme de la violence chez l'enfant ?
C'est essentiellement une réaction d'inquiétude, d'insécurité. Il exprime son malaise et son mal-être de cette façon-là, en essayant de faire fuir ce qui l'insécurise.
L'enfant apporte cette inquiétude à l'école ?
Il l'acquiert dans la famille. Dans certains cas, quand il y a un problème de violence qui se manifeste, il l'acquiert dans la famille à partir de certaines erreurs éducatives, des sortes d'habitudes, de sentiments que c'est ça la réaction normale. Et quand il est insécure lui-même, qu'il arrive à l'école tout petit, il reste insécure aussi dans ce nouveau domaine, dans ce nouvel environnement qu'il ne connaît pas. Et la première réaction, c'est de s'en défendre.
Est-ce que l'on a un panorama de la violence par âge ?
Quand on interroge un peu les enfants sur ce qu'ils vivent comme violence...
Yvette Bailly, vice-présidente de la Coordination française pour la décennie et membre du mouvement pour une alternative non-violente.
Les principales violences qu'ils subissent, c'est les violences entre enfants, que ce soit des bagarres, de l'humiliation, des moqueries.
Il y a une forme de violence auquel on ne s'attend pas dans sa virulence, c'est la moquerie.
Oui, comme vous dites, c'est une violence extrêmement virulente et extrêmement destructrice. Les jeunes qui se moquent entre eux n'ont pas suffisamment la connaissance. Ils ne se rendent pas compte à quel point ça peut être destructeur. Ça peut amener des jeunes au suicide.
Des enfants du même âge ou c'est peut-être des plus petits ? qui sont victimes des plus âgés.
Il y a différents types de phénomènes, effectivement. Il y a aussi des lieux où l'adulte n'intervient peu, par exemple dans les cours de l'école. À ce moment, c'est vrai qu'on retrouve d'une façon un peu naturelle la loi du plus fort. Donc là, effectivement, ça va être les plus grands qui vont embêter les plus petits. Et on voit beaucoup d'enfants, par exemple, quand ils rentrent en sixième, qui vont avoir peur, justement, un peu de se faire malmener par les plus grands. Mais il y a aussi, entre les enfants de même âge, des choses qui vont être plus des mécanismes de bouc émissaire, se moquer des autres. Et puis, l'importance du groupe. Pour appartenir à un groupe, l'enfant va être un peu contraint et se contraint un peu lui-même à poser des actes qu'il n'aurait pas fait individuellement. Il sent bien que ce n'est pas tout à fait comme ça, mais ils ont beaucoup de mal à se dégager de quelque chose qui va faire un peu la loi, c'est-à-dire la loi du groupe et trouver sa place dans le groupe.
Une éducation spécifique à la résolution des conflits, à la gestion non violente des conflits. Il nous semble que c'est des choses qui manquent beaucoup. Alors certes, il y a déjà des choses, mais il nous semble qu'il faut mettre ça plus clairement dans le programme scolaire.
Ça veut dire que ça fait au moins 10 ans que l'on va voir les institutions en leur disant qu'il serait temps de faire quelque chose.
Ça fait 10 ans que nous avons fait ce travail de lobby auprès des parlementaires, auprès du gouvernement. Donc nous avons vu tous les ministres de l'éducation, enfin tous les cabinets des ministres de l'éducation successifs. Nous avons aussi vu les parlementaires. Donc ce travail, pour l'instant, n'a pas abouti au passage d'une loi. Vous savez qu'il y a des pays où ça existe déjà. Pendant la décennie, l'Espagne a voté une loi en 2005 introduisant l'éducation à la paix et l'ambiance dans les écoles. C'est en place avec des programmes. Chaque école doit adopter un programme de vivre ensemble et mettre en place cette éducation. Mais en France, pour l'instant, ça résiste encore beaucoup et donc il faut continuer le travail.
L'éducation, dans la mesure où la plus grande violence vient des enfants entre eux-mêmes.
Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la soumission. Une fois que les enfants vont travailler un petit peu leur identité, reprendre une estime d'eux-mêmes, on va pouvoir les faire travailler sur quelle est ma relation de moi à moi, et puis après ma relation de moi aux autres, du même âge, puis moi et les adultes. Et petit à petit, l'idée, c'est qu'on arrive à travailler la relation entre moi et le monde.
Et notamment la députée Edwige Antier qui se bat en ce sens. Vous soutenez sa démarche ?
Edwige Antier, elle, comme psychologue, travaille spécialement sur l'éducation sans violence dans la famille. Elle a déposé une proposition de loi pour demander qu'on abolisse les châtiments corporels et les violences psychologiques dans l'éducation familiale. Et là-dessus, nous la soutenons, ce qui nous paraît cohérent avec une éducation sans violence. On ne peut pas demander aux enfants de eux-mêmes d'agir de façon non violente s'ils subissent des violences. Et aujourd'hui, ils subissent des violences. Et il nous semble, par exemple, dans les écoles elles-mêmes, on aimerait que dans les règlements intérieurs des écoles, on inscrive l'interdit de la violence. Interdit de la violence entre enfants, entre enfants et professeurs dans les deux sens. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous travaillons avec d'autres parlementaires, donc le sénateur Sueur ou le sénateur Mullin, pour introduire aussi notre projet de loi sur une éducation à la non-violence.
Éric Depardieu, qui est professeur par ailleurs à Bordeaux, a dû vous quitter après sa propre table ronde parce qu'il est au gouvernement, ça prend du temps. Qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un qui est à la fois membre du gouvernement et membre de votre comité?
Oui, Éric Depardieu travaille avec le gouvernement puisqu'il est dans une commission qui travaille sur la sécurité à l'école et donc les thèmes de violence scolaire. Éric Depardieu est aussi membre de notre comité de parrainage depuis l'origine. Ça permet de crédibiliser notre action. Alors, le bilan qu'on fait un peu de cette décennie, c'est que le terme de non-violence ne fait plus peur comme avant au niveau des officiels du gouvernement. On a rencontré, par exemple, le chef de cabinet de M. Châtel, le ministre de l'Éducation nationale, où on a eu un accueil ouvert à ces questions-là, ce qui est important et nouveau. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'il y ait un pas de plus de franchi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons été invités, par exemple, aux États généraux sur les problèmes de sécurité à l'école. Ce que nous aimerions aujourd'hui, c'est que nos propositions soient davantage prises en compte. Quand les députés écrivent au gouvernement, est-ce que vous répondez aux demandes de la coordination française? Pour l'instant, ils disent oui, c'est déjà fait. En fait, c'est pas vraiment le cas pour nous. Donc on attend que ça rentre concrètement, que tous les enfants en France puissent avoir la chance d'avoir une éducation à la paix et à l'environnement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
On arrive au bout de cette décennie. Quel est le bilan provisoire que vous en faites? Quelles sont les perspectives pour la prochaine décennie?
On peut dire collectivement que la non-violence n'est plus un gros mot. Le développement d'actions de désobéissance civile, de résistance des populations locales en France, mais aussi à l'étranger, la libération de la leader aussi en Birmanie. La non-violence commence à avoir une certaine légitimité.
Une certaine force,
la force de la non-violence. Les 10 ans ont montré un peu l'émergence de cette force, la participation des gens. C'est plus un gros mot, la non-violence. En même temps, le bilan de la décennie est assez mitigé, comme la résolution de l'ONU le précise, c'est l'enseignement donc, de l'éducation et de la non-violence à l'école et de la paix. Sur cet objectif, on n'est pas abouti. N'empêche que je pense qu'on est un peu sur la bonne voie et comme vous le dites, je pense que la non-violence est de plus en plus reconnue comme une force.
La question aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est que les décisions ne viennent pas du haut comme un couvercle.
Oui, c'est une véritable difficulté dans le système français. C'est à la fois, quand on va au ministère, ministère, on nous dit « Ah, mais il ne faut pas attendre que ce soit nous qui donnions des ordres pour que ça redescende à la base. » Et en même temps, quand on travaille à la base avec les établissements scolaires ou quand on va voir les inspecteurs d'académie qui sont responsables du ministère localement, ils nous disent « Oui, mais on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas des ordres qui viennent du ministère. » Donc on est un peu pris entre les deux aujourd'hui. Et nous, notre idée, on travaille à la fois à la base, c'est-à-dire qu'on a dans nos organisations beaucoup d'associations qui travaillent déjà à la formation dans les établissements. On sait qu'il y a beaucoup de projets. Une partie de notre travail, c'est de valoriser ces expériences pour montrer qu'elles c'est possible. Et en même temps, aujourd'hui, on aimerait que le ministère reconnaisse ces expériences en permettant que tous les enfants en profitent. Et ça, dans le système français tel qu'il est fait aujourd'hui, ça ne peut venir que d'une loi et d'un changement du code de l'éducation. Donc on fait le deux, on travaille à la fois à la base et au sommet.
Puisqu'on est dans une culture éminemment violente et qui développe chez les tout-petits une culture de la domination, il faut désapprendre la domination, se doter d'outils pour pouvoir proposer aux établissements scolaires une réflexion sur ce qui serait urgent de mettre en place au sein de l'éducation nationale. Pour ça, il faut avoir des arguments, et donc voilà, je suis venue me former pour avoir des arguments pour pouvoir ensuite investir les espaces scolaires où mes filles y sont.